Alors nous reprenons la deuxième partie.
最近比较我关注这个区域以及查我感觉我啊，故意来回头发，加我了，你帮着，你帮着么？
De notre sujet de Satan et des démons.
我可以安排我这对对啦，把撒旦呐，你把démons呀。
Nous avons vu à l'origine, il était un ange très glorieux. Et nous avons vu que l'orgueil s'est trouvé en lui. Et qu'à ce moment-là, il a voulu être comme Dieu. À ce moment-là, Dieu l'a précipité loin de sa présence proche. Satan a entraîné une grande partie des anges derrière lui dans sa rébellion. Et il est encore actif. Mais la Bible nous parle de sa destinée que nous allons voir un peu plus loin. Nous voyons que le Seigneur Jésus lui-même lui donne des titres. Dans Matthieu 12, verset 22, il est appelé le chef des démons. Et dans Jean 12, 31, le chef de ce monde. Donc de la terre où nous vivons. Et nous comprenons par là qu'il est particulièrement actif dans les gouvernements des pays de ce monde. Et en cherchant à influencer les personnages importants, pour influencer le monde selon sa volonté. L'apôtre Paul l'appelle le chef de l'autorité de l'air. Dans Ephésiens 2:2. Et le Dieu de ce siècle dans 2 Corinthiens 4:4. Il a une présence encore au ciel, mais il est spécialement actif sur la terre pour entraîner le maximum d'hommes derrière lui. Donc nous voyons qu'il a une certaine puissance et une certaine autorité. Lors de la tentation dans Luc 4, il dit qu'il a tous les royaumes du monde sous son contrôle. Et il demande au Seigneur Jésus de se prosterner devant lui pour le tenter et lui dire qu'il lui transmettrait cette autorité. Le Seigneur Jésus ne rentre pas dans une polémique à ce sujet. Donc nous ne savons pas jusqu'à quel point il a eu une autorité ou pas par rapport à ce monde. Mais le Seigneur a simplement répondu avec la parole de Dieu que l'on doit donner gloire seulement à Dieu. Dans Hébreux 2, verset 14,
nous
voyons aussi qu'il a la puissance de tuer de la mort elle-même. Dans Matthieu 4, verset 5, on voit que Dieu permet au diable de transporter le Seigneur Jésus au sommet du temple de Jérusalem pour le tenter d'une autre manière. C'est donc le pouvoir de Satan ou le pouvoir des ténèbres. Comme nous voyons dans Actes 26-18, Luc 22-53, ou Colossiens 1-13. Alors, il est comparé à différents animaux. Il est comparé à un serpent par rapport au fait qu'il est rusé.
Subtil.
Nous savons qu'il est apparu à, il est apparu à Ève dans Genèse 3:1 sous cette forme. Mais il est possible que là, c'était une forme de serpent avec des pattes encore. Puisque Dieu l'a puni en lui disant qu'après, il va ramper. On trouve cette appellation aussi dans Apocalypse
12:9.
Nous pouvons lire un verset de 1 Pierre 5:8. Où il apparaît comme un lion rugissant. L'image est un peu sombre, mais à gauche vous voyez un serpent et à droite un
lion.
Là, nous voyons cette image du lion qui cherche à nous faire peur et à nous dévorer. Le lion paraît donc cet animal puissant qui rugit et qui tourne autour des croyants.
Dans
Apocalypse 12, verset 9, il apparaît comme un grand dragon. On ne voit pas très bien l'image ici, mais le dragon s'est inventé un peu comme un dinosaure. Dans l'Apocalypse, il est représenté avec cette tête. Donc ça nous donne une image d'un être monstrueux et maléfique. Et il y a encore une autre image dans 2 Corinthiens 11:14. Là, c'est une des formes les plus dangereuses de son apparence. Où il apparaît comme un ange de lumière. Il fait croire qu'il est Dieu. Il fait croire qu'il apporte le bien. Il fait croire qu'il donne la lumière aux hommes. Nous savons que dans les religions orientales, cet aspect aussi de La lumière mystique est très importante.
Ne yukumene mo enenwewo wa butoke wa mu bishima bujika yukale no mushinga mukole.
Comment avoir une force mystique supérieure.
Ne boku yukupeta mukole kwa mumi jima kwa pamuto.
Une grande connaissance.
Yukupeta jimanye jinene jikole.
On retrouve aussi dès le mouvement du début du christianisme que Satan a fait chercher à faire dévier les croyants par des fausses doctrines. Et notamment par l'adoration d'anges. Qui donnerait une connaissance supérieure à l'homme. Donc il est aussi souvent déguisé en ange de lumière et il faut se méfier. Donc le dragon, le serpent ancien, qui est le diable et Satan, comme il est appelé lorsqu'il sera précipité loin de la terre.
Apocalypse
20, verset
2.
Maintenant, quelles sont ses activités? Dans Luc 8, c'est la parabole du semeur. Lorsque des non-croyants entendent l'évangile, il n'y a qu'un seul type d'auditeur qui reçoit la parole. De manière à ce qu'elle reste en portant du fruit toute la vie. Et chez les autres, ça ne reste pas. Une des raisons, c'est que Satan, il ôte du cœur la parole qui commence à produire du fruit. Et dans la parabole de l'ivraie, dans Matthieu 13,
39,
il y a une bonne semence qui est semée dans un champ. Pendant la nuit, Satan vient et semé de la mauvaise herbe. On peut comprendre l'image du christianisme qui s'étend dans le monde. Dans ce grand champ qui est toute la terre, l'Église et l'ensemble des vrais chrétiens
grandit.
Mais à l'intérieur de cet ensemble qu'on appelle la chrétienté, le diable va venir semer des mauvaises herbes. Notamment des gens non croyants qui font partie de cette grande église. On sait qu'il a mis dans le cœur de Judas de le livrer le Seigneur. Satan est entré en lui au moment où il y avait le repas de la Pâque, juste
après.
Dans Acte 10, verset 38, on voit qu'il a servi les hommes comme un esclavage à sa
puissance.
Nous avons vu avant dans 1 Pierre 5:8 l'exemple du lion qui tourne autour des croyants. Pour chercher à le faire du mal. Dans Ephésiens 6:16, il lance des flèches enflammées.
bajibaleje ni apa uyaya kunyaka anyo yaya kukupa miketa ijimika le itema kafya.
C'est pour ça que il nous a dit que le croyant doit s'équiper de l'armure de Dieu. Avec aussi un bouclier spirituel pour arrêter ces
dards.
Dans Apocalypse 12, il séduit la terre habitée tout entière. Il accuse les croyants devant Dieu. Toujours dans Apocalypse 12. Dans Apocalypse 13, 14, il égare les nations. Dans 2 Timothée 2, 36, il pose des pièges.
C'est
ça que nous devons être attentifs dans notre marche à ce que nous faisons. En plus, il dit des mensonges. C'est même sa profonde nature. Jean 8:44. Nous avons aussi vu qu'il est meurtrier dès le commencement, il tue. Dans Job, on a vu qu'il courait là, ça et là sur la terre. Pour faire du mal. Chapitre 1er, verset 7. Alors son dessein, c'est-à-dire ses buts, il veut contrecarrer les buts de Dieu. Il est anti-Christ. Il veut prolonger sa révolte et établir sur la terre un pouvoir. Et spécialement maintenant, faire une sorte de nouvel ordre mondial, on ne peut pas bien. Et nous savons que dans l'Apocalypse, il y aura un moment, après l'enlèvement de l'Église, où il y aura un homme très puissant à qui il va confier son pouvoir. Il veut aveugler les pensées des incrédules. Il cherche à les livrer à leur convoitise. À contredire les affirmations divines. Faire douter les convictions des chrétiens. Depuis le début, il cherche à entraîner le plus de personnes dans sa ruine. Parce qu'il sait très bien que pour lui, il n'y a pas de place de salut ou de repentance. Alors il cherche à influencer le plus de monde à sa suite. Déjà, à Ève, dans le jardin d'Éden, il a mis en doute ce que Dieu a dit. Quoi Dieu a dit? Alors là, nous voyons qu'il y a eu un des pères de l'Église. Qui a vécu de 150 à 220 après l'ère de Jésus-Christ. Et il a dit une chose intéressante. Que le diable est le singe de Dieu. Vous connaissez mieux que moi que les singes ont une capacité de copier l'homme.
Et
Tertullien, il a dit que Satan, il copie Dieu. Naturellement, cette comparaison a ses limites. Mais il y a certains aspects qui sont justes. Satan va mettre en action une sorte de trinité divine. Lui étant le dragon comme le père, qui va mettre en place la bête comme le fils, qui aura le grand pouvoir politique. Et en plus, il y aura le faux prophète en Israël
qui
donnera de l'action comme le Saint-Esprit.
Ça,
c'est le triangle que vous voyez en haut. Ensuite, il y a un parallèle entre Dieu qui est notre sauveur. Il copie à l'envers en étant un meurtrier. Dieu est le créateur. Lui détruit, il est le destructeur. Dans ces quatre piliers,
nous
savons que Dieu est éternel, alors que lui est un être créé. Dieu sait tout. On dit qu'il est omniscient. Mais le diable ne connaît pas toutes choses. Dieu est tout puissant, omnipotent. Mais le diable est limité. Dieu peut voir en tout lieu. Mais le diable, il doit courir ça et là pour voir ce qu'il
veut.
Et ces deux bases, Dieu est amour, alors que le diable il a une haine furieuse contre
lui.
Dieu est lumière,
et
le diable est le prince des ténèbres. Alors il essaie de copier par exemple de la Bible, il fait aussi des livres religieux.
Donc
on a vu qu'il a copié une trinité. Comme Dieu, il a des anges derrière lui. Il copie en faisant des miracles. Il donne aussi des dons à ceux qui le suivent, comme des sorciers, par exemple. Il crée aussi des habitations. Il est parlé dans l'Apocalypse de la synagogue de Satan. Il fait aussi des sortes d'églises sataniques. Je vais aller plus vite, il y a le feu du ciel, il y a le souffle, il est adoré.
S'il
veut être servi, il a
trône,
un royaume, un sceau, etc. Maintenant, un chapitre suivant, identité et activité des démons. Qui sont, comme on le voit Matthieu
25-41,
les anges de
Satan.
Ils ont une personnalité, de l'intelligence, de la mémoire, de la connaissance. Dans Marc 1, 24, on voit dans l'évangile qu'ils expriment la connaissance du Saint de Dieu. Donc ils savent très bien qui est le Seigneur Jésus sur la terre. Dans Jacques 2:19, on voit qu'ils savent très bien qu'il y a un seul Dieu.
Dans
Matthieu 8:22, on voit qu'ils connaissent leur propre fin terrible.
Dans
Luc 8:28, on voit qu'ils ont des émotions.
Parce que tout en
dans Jacques 2:19, on voit même qu'il tremble en rapport avec Dieu. Luc 8:32, on voit qu'ils ont une volonté qu'ils peuvent exprimer. Alors, leurs caractéristiques. Il y a deux termes en jaune qui sont difficilement lisibles. Ce sont des êtres spirituels qui n'ont pas de corps.
On le voit en Luc 24:39.
Ils sont souvent appelés des esprits impurs par le Seigneur lui-même. On le voit dans Marc 5:8. Et dans Apocalypse 16:14, puisque là il y a trois esprits de démons qui font des miracles. Et après l'enlèvement des croyants, on les voit influencer les rois de la terre pour préparer un grand combat. Là, je vais vous décrire ce qu'il y a parce que c'est difficilement visible. C'est une sorte de classification des créatures du ciel. Alors là, on parle de toutes les créatures célestes. Ici, c'est marqué fidèle. Donc, ça, ce sont les anges qui sont restés auprès de Dieu.
Et
il y a ce verset où il y avait beaucoup d'anges dans Apocalypse
5,
qui rendent gloire à l'agneau immolé. Là, il y a la séparation en rouge. Et là, il y a ceux qui se sont révoltés et ont désobéi. Alors la quantité ne correspond pas avec la place qui est donnée à cette catégorie. Il y a très probablement plus de fidèles que de révoltés. Mais on voit qu'il y en a une partie qui sont libres. C'est ici en 1 Corinthiens 6:3, les démons qui sont libres et actifs. Et ils sont ici.
En plus,
à droite, attendez, à droite, ce sont ceux qui sont en prison.
Si.
Il semble qu'il y en a qui sont pour toujours en prison.
Et
l'autre seulement pour un temps, ils vont être libérés.
Et
à la fin, ils seront jetés dans l'étang de feu et de
sang.
Donc vous voyez une image que certains ont imaginée. Alors pour comprendre cela, on lit encore quelques versets. Donc Christ a créé toutes choses dans l'Épître aux
Colossiens.
On a constaté qu'il y a dans les évangiles des démons qui agissent librement pour influencer les hommes. Mais dans 2 Pierre 2, verset
4,
il y en a qui sont déjà dans l'abîme, qui est une sorte de grande prison. Nous pouvons lire 2 Pierre 2, 4. Dans Apocalypse 9, une partie de ces anges, en tout cas, vont pouvoir sortir pour un temps. Pour tourmenter ceux qui ne croient pas en Dieu. C'est un peu difficile à comprendre, mais on voit ici en jaune. Le puits de l'abîme est ouvert. C'est donc cette prison où il y a des gens de Satan enfermés qui est ouverte. Il semble qu'ils ont un chef qui s'appelle Destruction ou Destructeur. Les anges en général qui sont en liberté, ils peuvent intervenir dans la vie des humains. Ils peuvent même posséder une personne, c'est-à-dire la prendre sous leur contrôle. Mais à la fin des temps, ils seront précipités avec Satan dans le feu éternel. Ceux qui sont emprisonnés, on ne sait pas très précisément la raison. Mais dans Jude, il nous en a dit quelque chose. Ils n'ont pas gardé leur origine. Ils sont allés après une autre chair. Donc, c'est possible qu'ils aient pris un corps d'homme. On voit dans Genèse 6 qu'il y a des anges qui ont pris des femmes. On suppose que ce sont des anges parce qu'ils sont appelés les fils de Dieu. Et leur union avec des femmes humaine sur la terre. Aurait donné des géants comme résultat. C'est une explication, mais on n'en est pas sûr. Et ceux-là, après quelque temps, Dieu les aurait pris et les aurait mis dans cette prison. C'est appelé abîme et un jour ils seront jugés. Donc on l'a déjà dit, les démons connaissent l'identité du Seigneur Jésus quand il était sur la terre. Ici c'est écrit le Saint de Dieu. Ici c'est écrit le Fils de Dieu en Marc
3:12.
Et comme le Fils de Dieu, du Dieu très haut dans Marc 5:7. Ce qu'ils font comme activité, c'est contrecarrer le plan de Dieu, aveugler les incrédules, faire chuter les croyants. Et dans Apocalypse 16, à la fin des temps, ils vont réunir les hommes pour cette grande bataille
d'Armageddon.
Maintenant, on arrive à la troisième partie. Quelle est la destinée? Ici vous avez, c'est difficile de voir de loin, mais c'est l'image du cours des temps. Ici vous avez Dieu qui est éternel dans le passé. Qui a créé le monde. Et Adam et Ève dans l'innocence, parfait.
Adam et Eva,
à ce moment-là, le diable arrive, qui s'est révolté contre Dieu. On ne sait pas très bien s'il a été précipité de la montagne de la présence de Dieu. Ou s'il a vraiment été jeté sur la terre. Mais en tout cas, il est là pour séduire Ève dans le jardin
d'Éden.
Et nous savons qu'il est présent actuellement aussi dans les lieux célestes. On le voit avec l'histoire de
Job.
Alors là, il y a les différentes périodes des temps de l'histoire. Avec les relations de Dieu et des hommes. Ici, il y a l'alliance avec Noé. Après le déluge. Ici, il y a le temps des promesses avec Abraham. Ici, il y a tout le temps de la loi. Avec le royaume, le temple. Puis il y a la venue du Seigneur sur la terre. Vous voyez la croix ici. Le temps de l'église où nous sommes. Et quand nous serons enlevés pour être avec le Seigneur, il y aura les catastrophes de l'Apocalypse. Au milieu de ce temps, Satan sera précipité sur la terre. Nous le voyons dans cette flèche rouge qui descend. Puis, pendant le règne de 1000 ans, il va être lié dans l'abîme. Qui est cette prison pour les anges déchus.
À la fin du règne
du Seigneur de Milan, il sera délié pour un temps.
Il va de nouveau être
actif sur la terre,
séduire
les nations,
et puis
il sera pris et jeté définitivement dans les
temps de feu. Ça,
c'est la mort et les tourments
éternels. Nous
voyons ici au milieu lorsqu'il avait essayé d'influencer
Job.
Nous le voyons aussi présent quand il accuse Joshua. Il a été présent dans la tentation envers le Seigneur. Il sera aussi présent par rapport à la grande tribulation contre ceux qui seront des témoins du Seigneur
Jésus.
Il va donc attaquer le camp de la cité des saints à Jérusalem sous le
Messie.
Il sera ensuite jugé définitivement. Ici, nous voyons cinq jugements de Satan.
Dans Ézéchiel 28:16,
il est précipité de la montagne de Dieu.
Dans
Hébreux 2:14, il est rendu impuissant par l'œuvre du Seigneur Jésus à la
croix.
Dans Apocalypse 12:9, il perd définitivement son accès au ciel.
Et
il est précipité sur la terre. Ensuite, il est enchaîné pour 1000 ans dans Apocalypse 20:1-3.
Et
finalement, dans Apocalypse 20:10, il est jeté dans les eaux de
feu.
Romains 16 nous confirme que bientôt Dieu va briser Satan sur nos
pieds. Dans Apocalypse 20:10,
il y a différentes appellations de ces séjours des
morts.
Souvent on dit d'une manière générale enfer. Il y a différents termes et différentes significations.
Et
aussi différents lieux. C'est des fois peut-être difficile de comprendre avec certitude. Le mot hébreu pour le séjour des morts, c'est Sheol. Qui en grec, c'est l'équivalent le Hadès. Ce serait le lieu où les morts vont actuellement avant d'être jugés. Mais ce n'est pas l'enfer qui est la mort définitive après le jugement. L'abîme serait le nom de cette prison pour les anges. Certaines traductions françaises appellent le mot tartare. Comme un lieu profond des abîmes dans 2 Pierre 2:4. Quant au mot hébreu Gehen, ça vient de la vallée de Hinnom, près de Jérusalem. C'est le lieu où l'on brûlait notamment les carcasses des animaux. C'est une image qui a été reprise pour parler de l'étang de feu. La seconde mort préparée pour le diable et ses anges. C'est dans Matthieu 25. Donc nous voyons la fin de Satan et de ses démons. Mais pas une fin unique, une fin éternelle. D'abord, la bête et le faux prophète, ils sont animés par Satan. Seront jetés dans cet étang de feu et de
soufre.
Puis le diable, ses anges, et ensuite tous ceux qui ne seront pas sauvés. Et à la fin des temps, Dieu va habiter, il y aura un nouveau ciel et une nouvelle terre. Dieu sera avec les hommes. Alors, en conclusion, il faut essayer de résumer. Alors nous continuons sans le projecteur qui est peut-être épuisé ou ça revient. Ah voilà, ça va revenir. Donc le diable est une créature de Dieu. C'est une puissance et une gloire exceptionnelle au départ. Mais il a un mauvais usage de sa liberté et il
s'enorgueillit.
Et puis il a voulu être l'égal de Dieu. Mais le jugement de Dieu est tombé sur lui et l'a précipité Les faits importants sont sa tentation d'Ève dans le jardin d'Éden par rapport aux
hommes.
Les tentations du peuple d'Israël, l'opposition à l'œuvre de salut du Seigneur Jésus, et par son obéissance et par sa mort, le Seigneur Jésus triomphe de Satan. Alors il va continuer de tenter les croyants pour qu'ils chutent, d'aveugler les incrédules. Il continuera aussi sa révolte finale jusqu'au jugement définitif. Concernant les démons, en résumé, nous pouvons dire donc que ce sont des créatures célestes, des puissances, des anges qui ont suivi Satan dans sa révolte contre Dieu, des esprits qui ont été vaincus et dépouillés à la croix. mais qu'ils interviennent toujours sur la terre pour combattre les croyants. Dieu a dit aux hommes, vous mourrez certainement si vous prenez de l'arbre
défendu.
Et le diable a inversé, il a dit, vous ne mourrez point certainement. Mais la mort est arrivée. Donc on voit bien que Dieu a dit la vérité et le diable mensonge. Il n'y a qu'une seule véritable guerre entre Satan et ceux qui lui font confiance, contre Dieu et ceux qui lui font confiance. Le Seigneur Jésus a remporté la victoire lors de la tentation avec une seule arme. Vous pouvez ouvrir les fenêtres parce que la pile est au bout. La parole, il a répondu avec l'arme de la parole écrite de Dieu, la Bible. Il a répondu, il est écrit. Il est encore écrit, car il est écrit. Et quand il répond avec la parole de Dieu, le diable n'a plus d'argument.
Et
laisse le Seigneur Jésus. Lui-même a donc souffert étant tenté, mais il a répondu avec la parole de Dieu. Hébreux 2, verset 18. Dans Colossiens, on voit qu'il a dépouillé les principautés, les autorités. Il a triomphé d'elles à la croix. Il a souffert une fois pour les péchés, juste pour les injustes.
Pierre 3:18.
Alors, quelles sont les conséquences de la victoire du Seigneur Jésus-Christ? Au moment décidé par Dieu, le royaume des ténèbres va disparaître à toujours. Et le royaume du Fils de l'amour du Père va resplendir éternellement. Le Seigneur Jésus va recevoir l'adoration universelle. Le Dieu sera tout en tous. Le Seigneur Jésus sera le Seigneur
à tous.
Alors, maintenant nous avons terminé la présentation. Mais nous pouvons nous poser quelques questions. D'abord, il faut accepter les limites que Dieu nous donne. Lisons le verset 29 du chapitre 29 de Deutéronome. Alors Dieu, il a dit qu'il y a certaines choses qui sont cachées, qu'il se réserve à lui dans la connaissance. Il nous révèle une certaine partie de ces choses. Ça, nous le trouvons dans la parole. Mais c'est bien de le découvrir et de le sonder. Mais des fois, les hommes aiment chercher des mystères qui ne sont pas révélés par
Dieu.
Et c'est là que Satan peut venir offrir ses services avec beaucoup de mensonges. Mais il faut s'en tenir à ce que Dieu nous a révélé. Lisons Donc nous comprenons qu'aujourd'hui notre connaissance elle est partielle.
Le
Seigneur nous connaît parfaitement et complètement. Mais ce que nous connaissons nous a été révélé dans la Bible, c'est suffisant. Un jour, avec le Seigneur, notre connaissance sera complète. Donc, il reste la foi, l'espérance et l'amour. Un jour, la foi, lorsque l'on verra, on n'en aura plus besoin, lorsqu'on sera au ciel. L'espérance, on n'en aura plus besoin, puisque notre attente aura eu sa récompense. Mais l'amour ne va pas s'arrêter. C'est la plus grande de ces choses et ça va continuer pour l'éternité. Alors il y a des questions des fois qui nous travaillent. Je vous donne quelques exemples. Pourquoi Dieu a-t-il créé Satan? Pourquoi est-ce qu'il ne l'a pas immédiatement détruit quand il s'est rebellé? Pourquoi est-ce qu'il l'a laissé venir au jardin d'Éden? Pourquoi est-ce qu'il l'a laissé tenter son dernier chef-d'œuvre, la femme? Pourquoi est-ce que Satan est encore tellement actif alors qu'il est vaincu à la croix d'avance? Pourquoi tant de souffrances et d'injustices dans le monde? Pourquoi il y a tellement d'enfants innocents qui portent encore les conséquences des péchés d'Adam et
Ève?
Alors comme réponse générale, Dieu est Dieu. Il est souverain. Et lorsqu'on est souverain, on n'a pas l'obligation de rendre des comptes. Comme il est dit dans Job 33, verset 13, pourquoi contestes-tu avec lui? Aucune de ses actions ne demande qu'il doive rendre des comptes. Dans Romains 9, on voit pourquoi est-ce que on a toutes ces questions. Mais l'apôtre Paul retourne la question. Qui es-tu toi pour contester Dieu? Donc le conseil de Dieu, c'est de se révéler à ses créatures. Il désire partager avec elle sa gloire, son amour, sa félicité.
Et
il a prévu que ça arrivera un jour. Il aura des adorateurs pour l'éternité. Et toutes choses seront réunies en un dans le Christ. Dieu a été plus glorifié par l'œuvre de la croix qu'il n'avait été offensé par la chute. Il a été beaucoup offensé par la chute, mais il a été encore beaucoup plus glorifié par l'œuvre de Christ. Alors, c'est pas encore dit. Et il y aura ensuite une proximité unique des enfants de Dieu qu'il n'y avait pas au début. Il va encore nous révéler les immenses richesses de sa grâce. De sa bonté envers nous dans le Christ Jésus. Maintenant, il y a des fois aussi d'autres questions. On voit que Satan agit encore beaucoup tant que Dieu le laisse agir, même s'il est vaincu. Il faut faire aussi une certaine différence entre des liens de démons et la possession démoniaque. Il y a des degrés d'influence démoniaque. On demande des fois, est-ce qu'un chrétien peut être possédé? Quelles sont les portes d'entrée pour les démons? Comment est-ce qu'un démon commence à avoir de l'influence sur une personne? Il ne peut pas faire n'importe quoi avec les hommes. Mais c'est en général parce que l'homme s'est intéressé à des choses défendues et que les démons ont pris une influence sur lui. Il y a aussi la question de ce que les chrétiens doivent faire en présence d'influence démoniaque. Une porte d'entrée pour les démons, c'est les contacts avec les esprits. C'est toutes les formes de divination pour essayer de connaître le futur. Il y a quelques versets un peu difficiles. Mais nous n'allons pas rentrer dans ce détail maintenant. Il faut savoir qu'il y a une partie du mystère que nous ne connaissons pas. Que Dieu reste Dieu. qu'il ne se laisse enfermer dans aucune formule humaine. Voilà, j'ai terminé pour cette présentation.
Ça,
qui dit là.